Samedi 5 novembre 2011 sur les 3-8, il est 18h. Nous allons passer une heure avec la compagnie Citéa, une émission spéciale imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille-la-Criée, à l'occasion de la création du spectacle Dans la compagnie des hommes, du 3 au 9 novembre sur la petite scène de la Criée. Dans la compagnie des hommes, un texte célèbre du dramaturge anglais Edward Bond, un texte écrit dans l'Angleterre thatchérienne de la fin des années 80. L'histoire d'un fils et d'un combat économique et financier qui oppose deux puissants hommes d'affaires, une tragédie moderne dans laquelle est donnée à voir toute la sauvagerie présente dans la société néolibérale. Il sera donc question de ce texte dans cette émission et du travail de la compagnie sur ce texte à travers un portrait chinois de la pièce, un lexique théâtral de la compagnie, une interview avec le metteur en scène Selim Malik, un extrait de Dans la compagnie des hommes joué par Arnaud Aprédéris et Dominique Richard et quelques illustrations musicales choisies par les membres de la compagnie Citéa. Une heure donc sur la grenouille en compagnie de
Selim Malik.
Donc Selim Malik, metteur en scène de la compagnie Citéa, directeur artistique.
Gilles Moher.
Comédien de la compagnie aussi et metteur en scène.
Arnaud Aprédéris,
comédien dans la compagnie des hommes.
Dominique Richard.
Dominique, donc je suis comédien sur ce spectacle et par ailleurs je suis aussi metteur en scène et j'écris.
Spectacle vivant.
C'est toujours mieux que spectacle mort.
C'est un échange, quoi. C'est le partage d'un moment avec un collectif et du public.
Vivant, ça veut dire plein d'incertitudes, ça veut dire que ça bouge.
Oui, vivant, bah oui, vivant le public, tout tourne autour de cette question du public, de la rencontre du public. Et puis oui, je suis assez d'accord avec Gilles sur cette idée de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui est en proposition, qui est en évolution.
Théâtre.
Un art collectif.
Un accent circonflexe.
Moi j'en sais rien.
Théâtre.
Silence.
Acteur.
Actant.
Ouais, c'est celui qui passe un texte ou autre chose.
Celui qui passe, c'est par qui ça passe.
Qui éclaire, qui est éclairé.
Mise en scène.
Je sais pas.
Le public. Le public, la place du public, le regard, le premier regard.
Moi je dirais c'est un art du mouvement, quoi. La mise en scène.
Travail de recherche, d'imagination, de rassemblement, d'écoute, de volonté tenace.
Compagnie régionale.
Aïe.
TER.
Ouais, c'est une estampille ouais. Un peu bizarre, quoi, parce qu'on a l'impression d'être... ouais, c'est ça, étiqueté, quoi. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui fait que, tout à coup, on n'est pas considéré de la même façon. On est repéré comme ça.
Ouais. C'est quoi, une compagnie régionale? C'est une compagnie qui peut pas aller jouer en
ouais,
Suisse?
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai, c'est assez particulier parce que, par exemple, en Île-de-France, à chaque fois qu'une compagnie arrive d'Île-de-France, c'est très rare qu'on mette compagnie, je sais pas quoi, tu vois, régionale Île-de-France. Hein, c'est une compagnie, quoi, tout à coup.
Alors, mais je connais pas de compagnie régionale. Qui n'est pas régionale, en fait. J'ai du mal à comprendre.
Oui, tout à fait. Absolument.
Non, mais ça veut dire provincial, c'est-à-dire.
Ah, c'est
un peu
oui.
Le plouc de service.
Le plouc de service, encore.
Centre dramatique national.
C'est le contraire de la compagnie régionale, c'est ça?
Zone industrielle.
Usine.
Oui. Manufacture.
C'est
Mammouth.
C'est un lieu où il y a plus d'argent.
Bah, c'est-à-dire que les termes ne sont pas flatteurs. Voilà. Après, je pense que c'est parfois des grandes machines pleines de création, de bouillonnement, d'intérêt. Et puis c'est aussi parfois exactement le contraire.
Oui, enfin, le choix de ces deux mots-là, compagnie régionale et puis centre dramatique régional, comme c'est national, comme ça en opposition, oui. Non, ça pose la question de toute l'organisation du théâtre en France, comment ça se fait, comment c'est découpé, comment c'est hiérarchisé, voilà, donc ça pose plein de questions, donc d'où, à mon avis, les réponses comme ça un peu embêtées que nous pouvons avoir. je pense que de toute façon là en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de questionnements sur le système tel qu'il existe, donc on va voir comment ça va évoluer.
En tout cas, c'est bien qu'ils accueillent des compagnies régionales. Ça, c'est important.
Étant donné qu'il n'y a que des compagnies régionales, je vois pas comment ils pourraient faire.
Intermittence.
Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint.
Alors, moi, ça n'a rien à voir avec l'intermittence, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est... j'aime bien le football, donc je regarde de temps en temps des matchs à la télé, et le commentateur, il est toujours en train de dire, quand le joueur n'est pas très bon, c'est un intermittent du spectacle. Donc ça veut dire c'est un mauvais, c'est un fainéant, il fout rien, et ça m'énerve, voilà, je vais dire, c'est pas des fainéants.
Hauteur
sous plafond.
Écart, moi je dirais, parce qu'il y a un écart, forcément, hein. avant ou même pendant, enfin, je crois, quand on écrit, j'écris pas, hein, mais... Je me dis qu'il y a un écart, il y a quand même une vision, il y a un regard, il y a quelque chose.
En tout cas, il y a une absence. C'est vrai que pour le coup, l'auteur se... Enfin, je parle des auteurs de théâtre, parce que c'est vrai, c'est un truc un peu étrange. Parce que l'auteur de théâtre, c'est à la fois un auteur comme un autre, et effectivement, il écrit. Et tout, comme tout texte, une pièce de théâtre, ça se lit aussi. Mais en même temps, effectivement, il y a une spécificité quand même de l'auteur de théâtre qui écrit des textes qui sont censés exister d'une certaine façon, en dehors même de l'objet livre, du texte tel qu'il apparaît au début. Et oui, donc une absence, oui, un retrait du théâtre. L'auteur, il se retire pour passer par un autre médium qu'est l'écriture, pour que d'autres s'approprient ces mots et refassent du théâtre. Je sais pas, oui, effectivement, quelqu'un qui se retire du théâtre pour y revenir d'une autre façon, je sais pas.
Il brille par son absence.
Fiction aussi, je dirais.
Si dans la compagnie des hommes était une chanson.
Landes Baleine. Landes Baleine.
On passe une heure avec la compagnie Citéa sur les 3-8.
All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face, a new religion. Everybody's sitting round watching television.
Down, 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 down.
On passe une heure avec la compagnie Citéa sur les 3-8, une émission spéciale imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille, La Criée, à l'occasion de la création par la compagnie Citéa de Dans la compagnie des hommes, un texte d'Edouard Bond, une création sur la scène de la petite salle de La Criée du 3 au 9 novembre 2011. Extrait du texte avec Arnaud Apridéris, qui joue Léo dans la pièce, le fils, et Dominique Richard, qui joue Dot, le traître.
J'ai essayé de te tuer. Je l'aurais fait. Tu peux l'entendre dans ma voix. Tu écoutes un enregistrement de ton meurtre. Non, ce n'est pas possible. Il faudrait que je... Ne dis rien. Ne dis rien. Ne bouge pas. C'est moi qui ai changé le chargeur. Un fusil bizarre. Un accident était plausible. C'était la première circonstance favorable. C'était comme si les dieux me souriaient. Ils étaient beaucoup plus malins que je ne pourrais jamais l'être. J'avais l'intention de te tuer dans les champs, au moment où le photographe me prendrait. Ça, c'était la deuxième circonstance favorable. Personne ne pose pour des photos pendant qu'il commet un meurtre. Ne dis rien, ne bouge pas, calme. C'est notre unique chance. J'aurais bien visé une mort propre. Je peux te parler, ça va aller. Les mots sont comme des choses, ça aide. Ils prennent leur part de responsabilité. Juste les pousser du doigt, ce sont de petites pièces de fer ou de pierre. J'ai envisagé de te blesser de manière à ce que tu vives quelques minutes, au cas où tu aurais voulu dire quelque chose. Puis j'ai vu que c'était une insulte. Qui condescendrait à parler au vivant quand il est offert en sacrifice aux morts? Donc, j'allais mettre en œuvre un tir aussi exact qu'un graphique sur un livret d'instructions de tir. Je te promets que tu n'aurais même pas sourcillé. Et puis j'ai eu un autre coup de chance, la troisième circonstance favorable. Je pouvais te tuer à l'intérieur. Je ne pouvais pas rater. Le ciel entier grimaçait vers moi. Le fusil chargé était entre mes mains. J'ai visé différentes choses. Puis j'ai réglé la focale de la lunette sur toi. L'optique a attiré ton visage si près. Tu te penchais pour m'embrasser. La virtuosité technique. Un chef-d'œuvre de fusil. Stupéfiant. Je pouvais compter chaque poil de ta barbe naissante. En mesurer l'épaisseur. Tes pores d'anciens cratères de bombes. Mais pas d'odeur. Un monde de verre entre nous, rien que la puanteur de Wilbraham, son haleine, aisselle, entrejambe, un cadavre arrosé à l'eau de Cologne. Traces de transpiration séchée, odeurs qu'aucun mouvement ne ramènerait jamais à la vie, les sources étaient taries. J'ai compté. J'étais une machine de guerre, enregistrant les centièmes de seconde. Tu étais si près de la mort et tu ne le savais pas. J'ai vécu tes dernières secondes pour toi. Les ai remplies de vie. Les ai étirées. Elles étaient aussi longues que tout le temps que tu avais vécu avant. Je t'ai donné une longue vie. Mais l'horloge cherche la dernière seconde. Elle la trouvera. Des enfants rangent leurs jouets, tournent la tête pour chercher du regard la dernière pièce. Leur petit poing descend. Tous les enfants sont des géants. Tu n'étais pas à la morgue, mais la morgue est en toi. Une poignée de gravier jetée au vent, elle s'assemblerait en une pierre. Dans un instant, tu seras mort. Tu tomberas, descendras. Tes mains s'agiteront au-dessus de toi comme si elles essayaient de cueillir la balle sur ton cerveau. Et maintenant, tu te dis, Bartley a parlé. Un idiot t'a gracié. Non. C'était un oiseau. Dans un arbre dénudé, les feuilles auraient couvert le son, mais je vivais en millionième de seconde. Le temps de mourir était venu et tu disais quelque chose hors de propos, mais tout était hors de propos. Ta voix, le grincement de pierre au fond d'un maelstrom, c'est bien le mot. Tu ne pouvais pas dire non. Le mot serait tombé entre des pierres de meule. Le grincement gronde. Un ogre s'est coupé la gorge. Il y avait du sang, beaucoup. Et alors j'ai vu tes mots. Je t'ai dit que les mots étaient des choses. Un tapis rouge tendu entre ta bouche et le fusil. Les mots se déplaçaient dessus, des fantômes. Le mouvement de l'air derrière un jet. Ou les câbles qui guident un missile vers sa cible. Quelque chose comme ça. Une grande succion venait de ta tête pour attirer ma balle vers elle. La détente est incurvée. Mon doigt, des millions de doigts s'extirpent de la boue. La crasse, les ongles étaient des yeux. Ils pleuraient pour nettoyer la boue. On devrait avoir pitié de tout ce qui gît dans ses propres larmes. La peau en lambeaux, les griffes, la pourriture, ruine. Et ainsi, j'ai pensé, puisque je suis un homme d'une bonne nature, propre et bien élevé, qu'on a envoyé siéger parmi les sages de son espèce, l'oiseau doit chanter. Si tu tires, il s'envole, crépite à travers les arbres. Toute une armée regarde en l'air, le manger tombe de leurs fourchettes, leur empreinte de pas dans la boue, la clameur des eaux. Rien que le son de l'oiseau. Des feuilles de métal dans un chantier naval, des ailes de fer, musique, mais exacte, précise, une grammaire complète. Tout ça n'a rien dit, donc je l'ai laissé chanter. Après, je n'ai pas pu te tuer, c'eût été une faute tactique. Deux incidents avec un fusil. Et j'avais un mobile, s'il n'y avait eu que l'idiot pour parler, bang. J'aurais dit que son brutal écart pour arracher le fusil m'avait fait sursauter. Non, c'était l'oiseau. C'est tout entre toi et la mort. Pense-y quand tu en entendras chanter un. Une dernière chose, cette fois je dois tout dire. Père, je t'ai dit que je ne t'avais pas tué. C'est un mensonge. Je t'ai tué. Tu es mort. Moi aussi, je ne te le cacherai pas. Tu te promènes et respires. Pourtant, je t'ai tué encore davantage que si nous avions été enterrés ensemble et que je t'avais tué dans ton cercueil. J'ai fait de toi la scène vivante d'un crime, l'embryon de la mort de tout le monde. Nous en gardons le secret en faisant la démonstration dans les rues. Partout où tu iras, chaque fois que tu poseras une tasse sur sa soucoupe, chaque miette que tu brosseras de ton pantalon dira à tout le monde que je t'ai tué. Je n'aurais pas pu te tuer, supporter tes dernières secondes tout seul. Tu as dû m'aider, je suis un parasite de ta mort. J'ai pénétré à l'intérieur de ta peau de mort pour te tuer. C'est là que je me tiens maintenant, et tes os sont en moi comme s'ils avaient été emballés dans le mauvais paquet. Et puisque c'est comme ça, que faisons-nous? Comment allons-nous continuer? Les morts doivent penser à l'avenir, faire l'inventaire. Je dois te donner une bonne raison de t'avoir tué, une que tu puisses respecter, qui donne un sens à ta vie. Alors nous pourrons continuer à vivre. Je t'ai tué pour prouver que je suis prêt à te remplacer. À qui d'autre peux-tu confier ta compagnie? Seulement à ton meurtrier. J'ai gagné le droit de prendre ta place. Eh bien, tous les pères devraient t'envier. J'ai fait mes preuves en te tuant et je te laisse vivre pour partager mon héritage. Je suis un fils digne d'estime. Tu dois prouver que tu es digne d'estime pour être mon père. C'est ça l'astuce. Je t'ai délivré. J'ai assemblé les pièces du puzzle. J'ai tué et maintenant je donne la vie. Je suis le père et le fils. Nous ne pouvons plus faire comme si je n'avais pas parlé. Si tu choisis comme il le faut, tu es le père que je voulais. Nous vivrons ensemble comme des frères. Je t'ai choqué. Tu t'en remettras. Ils avaient coutume de blesser Dieu au flanc pour qu'il puisse revivre. C'est de toute notre vie l'unique moment où nous devons être seuls, tous les deux. Tu as signé. Je te remercie. Père, pourquoi tu... Il est mort? Mort. Mort. putain de vice. L'enfoiré. Le salaud, le vice. Mort. Et lui, cette merde. Il ne va pas s'en tirer comme ça, je ne me fais pas avoir aussi facilement. D'accord, tu veux jouer le vice. Il y a des machines. Respiration artificielle. Tu ne t'en tireras pas comme ça, enfoiré. Il est parti.
C'est une blague.
Mon Dieu, il s'est transformé en fantôme et il est parti. Non, non, pas mort. Il se cache. Je vais apprendre à cette merde qu'il faut... Bon Dieu, il est allé trouver la police. La ligne est morte.
Mademoiselle Shrewsbury est rentrée chez elle. Le testament.
Ah.
Quoi ?
Tombez. Aidez-moi.
Putain de con.
Quoi ?
Putain de con incompétent. Regardez. Moitié de signature. Il a écrit la moitié de son nom et s'est arrêté. Monsieur Oldfield, ici Dodds. Ne mourrez pas avant d'avoir signé le testament. Laissez-nous de bons souvenirs. Un testament à demi-signé, ce que ça va coûter en honoraire d'avocat. Bon Dieu, Hammond. Monsieur Oldfield, s'il vous plaît.
Père.
Stylo. 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 Il ne peut pas signer sans stylo.
Il avait un... Où est ce putain de... Il a dû taper dedans quand il... Mademoiselle Shrewsbury. Mon père a besoin de...
Mademoiselle Shrewsbury est rentrée chez elle.
Il y a un bureau plein de...
Le même stylo, le même stylo. Vous voulez le finir au bic rouge?
Stylo, stylo.
Là.
Ah.
Monsieur Oldfield, Dodds vous supplie, un dernier geste d'adieu.
Mais il a respiré par...
Des gaz. Vous lui avez mis le genou dans le ventre. Les morts n'arrêtent pas de rôter et de péter, c'est pas ça qui va nous faire que c'est le jour de la résurrection.
Il est chaud.
Parti en enfer, lancer une OPA. Au moins, il n'a pas remanié le texte. Imbécile, venir me chercher. Il était sans doute encore en vie. Pourquoi serait-il allé chercher la police?
Il est mort. Qu'est-ce que ça peut faire?
La police, justement, ça peut faire quelque chose s'il est mort.
Bon Dieu, le voilà reparti. Il essaie de se relever. Du bouche à bouche.
Non! Vous avez fait assez de dégâts. Il peut avoir entendu ce que nous disions. Qu'est-ce qu'on a dit? Impossible de réfléchir avec un mort ou un mourant dans une pièce. Il a toujours gardé pour lui les décisions importantes et maintenant il nous laisse dans le pétrin. Non, c'est pas le moment de disjoncter. Monsieur Oldfield, est-ce qu'il vaut mieux vous laisser vivre ou vous achever? Quelle question absurde. Bon. Là-dessus, il est parvenu à une décision très ferme. Il est mort.
Oh Dieu. Que puis-je faire? Qu'adviendra-t-il de moi? Je ne m'en débarrasserai jamais. Personne ne peut m'aider. Il n'est pas juste.
Je suis désolé d'avoir crié. J'ai perdu mon sang-froid. Je vais finir sa signature, il m'a appris à l'imiter pour les documents sans importance. Faire un petit faux tout simple est nettement moins compliqué que de faire le bouche à bouche. Nous avons déjà eu le baiser de Judas, et si vous me le demandez, on a fait la meilleure affaire. Place nette. Là, une main de bébé ne pourrait pas être plus sûre en tapotant la joue de sa mère.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Nous dirons qu'il a signé le testament ce matin. Il a perdu conscience dans le couloir et nous l'avons transporté dans le salon de réception. Léonard ! J'imagine que vos pleurs sont sincères. La mort joue de drôles de tours. Personne n'y échappe. Le dénouement, après toute une série de chocs. Je pourrais pleurer de soulagement. Les gens disent que je n'éprouve aucun sentiment. Mais quand je pense à tout ce qui aurait pu aller de travers. Mais vous êtes revenu à temps. Hammond cramponné à son fusil. Et j'étais là pour imiter sa signature. Ça fait largement de quoi être reconnaissant.
Donc, Selim Alik, comment est né le projet de monter dans la compagnie des hommes d'Edouard Bond pour la compagnie Citéa?
Ben en fait, je connaissais le théâtre d'Edouard Bond, enfin, j'avais vu certains de ses spectacles, et j'avais du mal à avoir accès à cet univers, à ce théâtre, à la singularité de ce théâtre. Donc, j'ai lu la pièce dans la compagnie des hommes en 2001. Et je me suis dit qu'avec ce texte, j'avais peut-être l'opportunité, comme il est structuré de façon plus classique, on va dire, que les autres textes qui sont arrivés après, je me suis dit que c'était peut-être la possibilité d'avoir accès par ce biais-là à son œuvre. Et puis aussi, bien sûr, parce que j'ai trouvé que c'était un texte structuré de façon vraiment très aboutie, enfin une horlogerie dramatique. Très, 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 très bien construite. Et voilà. Et aussi parce que, évidemment, elle est reliée à la thématique centrale de la compagnie, c'est-à-dire ce qu'on traite avec la compagnie, c'est-à-dire la thématique de la famille. Et là, donc, il s'agit de relations très particulières, très troubles, entre un père et son fils, qui, en plus, est un fils adoptif. Donc des relations encore plus complexes. Et donc quand j'ai lu ce texte, je l'ai trouvé très très fort. Et par contre, je me suis dit que j'avais pas accès. Il y avait des moments où j'étais décentré par rapport à l'évolution dramatique et surtout aux trajectoires des personnages. Et donc il m'a fallu du temps. Je me suis dit qu'il fallait que je continue mes recherches parallèlement à mon travail d'acteur et de metteur en scène. Et j'ai continué à travailler. Ensuite, il y a eu un cycle sur Edouard Bond, je crois que c'était en 2003, me semble-t-il. Et à ce moment-là, il y a eu la radiodiffusion de la pièce dans la compagnie des hommes. Là, ça m'a permis de mieux envisager la direction d'acteur, de mieux comprendre aussi les trajectoires de chaque figure. Et en même temps, il fallait que je restais face à des énigmes assez colossales, puisque la pièce est construite de façon, par strates, quoi. Donc je n'avais pas toutes les références. Alors il fallait que je continue de chercher. Et puis aussi que je cherche dans son œuvre, parce que comme tout grand poète, à chaque fois qu'on touche à une œuvre, à une pièce, alors c'est une partie d'un ensemble de l'œuvre. Et donc je pense maintenant pouvoir mieux cerner son théâtre, quoi. C'est-à-dire comment il le construit, sur quoi ça repose. Par exemple, on sait que Edouard Bond, il y a toujours cette relation, enfin, c'est même le terreau, c'est-à-dire sur la catastrophe de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, la catastrophe d'Hiroshima, Nagasaki, etc. C'est les raisons qui ont fait que j'ai eu envie de la mettre en scène.
Selim Malik, la compagnie Citéa travaille sur la thématique de la famille. Quelles sont les autres pièces que la compagnie Citéa a montées sur ce thème-là?
Très vite, j'ai travaillé sur le théâtre de Coltès. Donc j'ai fait une mise en espace de Salinger, de Bernard-Marie Coltès. Ensuite j'ai travaillé aussi sur le long voyage du jour à la nuit de Jeanne O'Neill, que j'avais mis en scène en 2002, où là aussi on est au sein d'une famille. Et puis j'ai travaillé aussi sur les Atrides, la trilogie d'Eschyle, qui m'a amené vers le théâtre de Pier Paolo Pasolini avec Pilade. puisque on bascule comme ça de la tragédie antique vers la tragédie moderne. Et puis Iphigénie de Racine. Voilà, c'est vraiment des pièces comme ça qui tournent toujours en relation. Donc dans Iphigénie, c'est père-fille. Dans O'Neill, c'est père-fils, puisqu'il y en a deux. Et Pasolini, évidemment, c'est Oreste qui tue sa mère, quoi, qui elle-même a tué son père. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui
sont. Des tragédies à chaque fois.
Oui, c'est des tragédies. Bon, pour Iphigénie, c'est évident que c'est une tragédie. On peut la monter, on peut trouver des contrepoints à l'intérieur qui sont des situations, des quiproquos qui peuvent amener à sourire, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, là, on est vraiment dans une tragédie. Alors que, par exemple, dans O'Neill, on a des situations qui sont des situations grotesques. C'est-à-dire que, comme le père est très envahissant, c'est sûr qu'à un moment donné, tomber dans un tel stéréotype, une telle figure tyrannique, entre guillemets, ça porte par moments à l'humour. Et puis la dérision qui est amenée par les fils, et puis aussi par l'alcool, puisqu'il y a beaucoup d'alcool qui coule dans cette pièce-là.
Et pourquoi la compagnie Citéa a décidé d'accorder cette importance-là à ce thème-là de la famille ?
Eh ben, je ne sais pas. C'est venu comme ça. C'est pas quelque chose qui a été conscient ou non. Je me suis aperçu au bout d'un moment qu'effectivement moi-même j'étais comme attiré, comme aimanté par ce genre de relation et comment c'était important évidemment par rapport au monde, à la société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on écrit et comment une société peut continuer à exister par la passation. Voilà, donc ça pose effectivement la question de la filiation et la question de la passation. Et donc, au-delà de la paternité, on va dire, plus familiale, ça pose aussi la question des pères, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils en font et quel est... on peut passer quelque chose, on peut continuer à transmettre des choses qui n'évacuent pas une mémoire et qui ne nous amènent pas justement à une coupure entre les générations.
Du coup, pour Dans la compagnie des hommes, quels ont été tes partis pris de mise en scène, Céline ?
Alors, le parti pris de mise en scène, très rapidement, en fait, quand on a commencé, on a fait une première lecture, donc c'était en septembre 2009 au Théâtre de Lanche. Et puis, très rapidement, moi, de plus en plus, quand je travaille sur une pièce, je cherche, je cherche un rapport photographique ou un rapport pictural. Et donc, on cherchait comment trouver la singularité, c'est-à-dire quel espace, quelle parole muette de quelle toile, de quel peintre pouvait tout à coup cerner, encadrer, ou en tout cas porter, ou s'ouvrir à ce texte-là, puisqu'on est dans un registre très classique, on est dans du théâtre de la parole. Donc j'ai cherché cet espace-là, quel univers pictural. Et puis donc on était à ce moment-là sur la question de la construction du dossier. Et donc on a cherché plusieurs univers, et à un moment donné, je suis tombé sur une toile de Pierre Soulages. Et c'est devenu une intuition qui était là et qui a grandi comme ça. Et en 2009, c'est fin 2009, il y avait donc une rétrospective intégrale à Beaubourg, à Paris. Et donc avec Vincent Debat et Arnaud aussi qui était allé le voir, on est allé voir cette exposition qui était magnifique, et moi j'ai découvert donc son œuvre. C'est-à-dire que j'avais fait des recherches évidemment sur internet, etc. Je m'étais procuré des documents, des livres pour voir un petit peu sa démarche. Et quand je suis arrivé là-bas dans ces grandes salles de Beaubourg avec ces polyptiques comme ça qui sont des immenses toiles dans des grandes salles comme ça, suspendues. Tout à coup, ça a été subjugant de voir l'espace que ça pouvait ouvrir Et comment devoir passer des gens comme ça devant ces polyptiques, ça pouvait raconter quelque chose d'eux, de ces gens que je ne connaissais pas, qui suivant devant le polyptique, devant le panneau devant lequel ils se trouvaient, la toile devant laquelle ils se trouvaient, ça pouvait raconter des choses très différentes. Et comment aussi le rapport à la lumière, en se déplaçant soi-même, pouvait transformer ce qu'on voyait. Donc dans un rapport à la toile, absolument pas conduit, on va dire, de façon amenant un conduit culturel ou un rapport beaucoup plus, on pourrait dire, concret, qui, ou comme face à, je ne sais pas, un paysage ou à une nature morte. Ou, voilà. Et là, je me suis dit, c'est cette chose-là, c'est-à-dire qu'on cherche on cherchait une démesure, c'est-à-dire un espace pictural qui nous amène à la fois un faste et puis une démesure par rapport à l'échelle humaine. Et là, on était évidemment, voilà, exactement à l'endroit qu'on cherchait. Et même, je peux citer trois postulats de Pierre Soulages qui nous ont rassemblés et nous ont fait aller dans la démarche artistique et aussi vers la conception de la scénographie. Donc je peux citer le premier, parce que la peinture est une aventure dans le monde, elle le signifie. Parce qu'elle est une synthèse, elle le signifie dans sa totalité. Parce qu'elle est une expérience poétique, elle le signifie en le transfigurant. La deuxième, qui est très important, qui était très important pour nous, la réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport qu'elle crée entre la chose qu'elle est, celui qui l'a produite et celui qui la regarde. Et enfin, la peinture crée devant elle un espace et celui qui la regarde est dans cet espace. Sachant que l'objectif de la pièce, l'objectif de Bond, c'est, dans la mise en scène, de mettre le public au centre du dispositif. Non seulement du dispositif dramatique, mais aussi de tout le dispositif, c'est-à-dire le dispositif scénique.
Et compte tenu de ces éléments, Célie, quelle a été ta direction d'acteur alors ?
Alors, la direction d'acteur est très particulière parce qu'elle demande une forme de, comment dire, d'épure. C'est-à-dire que comme la scénographie qui est la matrice de l'espace et qui conduit l'ensemble et qui nous met dans une forme de gros plan, alors tout est visible. C'est-à-dire que c'est un petit peu le rapport, pour moi, hein, de la caméra. C'est le parallèle que je pourrais faire. C'est-à-dire que si on joue devant la caméra, alors la caméra, c'est une loupe et elle voit tout. Et alors, donc, il faut épurer le jeu. Donc d'abord, dans un premier temps, on a fait un travail à table qui était très important et qu'on continue à faire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient à la partition. Et justement, je parle de partition, voilà, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est très musical, c'est très écrit, et ça conduit le jeu. Et comme on est dans la parole, c'est aussi de la pensée. Alors, c'est pas une façon d'appréhender le jeu, j'ai envie de dire, de façon traditionnelle. Si on est trop dans l'incarnation, alors on couvre le sens. Et c'est le sens qui doit, c'est comme dit Edward Bond, c'est cette théorie enfin, qu'il a écrite, c'est-à-dire que c'est l'énergie du sens qui va progressivement faire que tout à coup, il y a des présences charnelles, organiques, tendues, vers l'objectif, à chaque fois des enjeux très précis, des échanges de forces et des objectifs qui se passent dans l'urgence parce que, à chaque fois, ça se passe, comme on pourrait dire, entre guillemets, entre deux portes. Il faut régler quelque chose, il faut obtenir quelque chose avant qu'une autre figure, par exemple, arrive. Parce qu'on est dans le monde des bureaux, il nous donne à voir ce que nous ne voyons jamais, c'est-à-dire, il nous met en exposition ce qui se passe dans les bureaux. C'est-à-dire que si je ramène ça à des cabinets d'entreprise ou quoi que ce soit, ou des cabinets politiques, ce qu'on voit, nous, c'est généralement, comment dire, une forme de façade, c'est-à-dire des interviews, etc., des conférences de presse qui sont préparées. Mais on ne voit pas tout ce qui peut se passer dans les bureaux. Et lui, il nous dit, voilà comment ça se passe dans le monde. Et il nous le donne à voir comme ça, à travers un œil de verre, quoi. C'est-à-dire à travers une loupe, quoi.
Une dernière question, Céline Malik, dans la compagnie des hommes d'Edouard Bond va donc être présenté par la compagnie CTA, est présenté par la compagnie CTA sur la petite scène du Théâtre National Marcel Lacrier. Quelle perception tu as de cette petite scène?
Alors, quelle perception j'ai? Comme toutes les salles de théâtre, je crois, à plus ou moins grand niveau, c'est une salle qui a ses contraintes. Et donc avec Vincent Debat, donc le scénographe, très rapidement ce qu'on s'est dit, c'est que face à ces contraintes là, parce que c'est une salle qui est très ouverte puisque nous avons 16 mètres d'ouverture et très peu de profondeur puisqu'on a en gros 7 mètres, on s'est dit qu'il allait falloir inventer un processus scénique qui nous permette de créer de la profondeur. Et c'est ce que Vincent a réalisé très très bien, parce qu'il a conçu effectivement une scénographie qui est dans un très bon rapport face à cette difficulté qui était de contrer un petit peu cette sensation d'écrasement ou d'un gradin qui nous fait plonger. On a le nez vraiment sur le plateau. Et là, dans le rapport des dimensions, des châssis, donc des panneaux, à partir de l'œuvre inspirée de l'œuvre de Pierre Soulages, notamment des toiles noires lumières, alors on a un dispositif qui fonctionne très très bien, qu'on est en train d'adopter, dont on est en train de s'emparer ensemble avec les acteurs, de se questionner avec les techniciens, avec la lumière, avec le son, avec tout le monde.
Oui, parce qu'il faut dire que cette émission est enregistrée quelques jours avant la première représentation. Et là, ils sont au point ce samedi 5 novembre 2011. Merci beaucoup, Céline Malik.
Merci.
On passe une heure avec la compagnie CTA sur les 3-8, une émission spéciale imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille Lacrier, à l'occasion de la création par la compagnie CTA de Dans la compagnie des hommes, un texte d'Edouard Bond, une création sur la scène de la petite salle de Lacrier du 3 au 9 novembre 2011.
Répétition.
Réexplorer. Explorer à nouveau.
Se tromper. Se retromper.
En même temps, j'aime bien aussi, je suis d'accord bien évidemment, parce que c'est ça, mais j'aime bien aussi l'idée de la répétition comme du fait de répéter effectivement la même chose, de refaire, et d'arriver à refaire comme si c'était la première fois qu'on faisait. C'est je pense que c'est un des enjeux du travail de l'acteur et du théâtre en général, de refaire ce même cérémonial, ce même rituel du fait d'être là et de raconter cette histoire à nouveau. Et qu'elle soit audible encore, encore et toujours.
Représentation.
Un peu de feu, un peu de la notion de du cerceau enflammé, un peu de cirque, un peu les tigres, un peu les fauves, la sueur. La fête aussi, hein. La grande fête.
Oui, la fête, oui. Oui, c'est vrai, je parlais de rituel, de cérémonie, c'est ça la représentation, ce moment un petit peu... le théâtre, ça a à voir avec un espace sacré, entre guillemets, enfin séparé du reste, et un temps particulier, c'est ce temps-là et cet espace-là, avec des gens qui viennent, et bien voilà, c'est ce moment-là.
C'est un moment d'exposition.
Oui, c'est une exposition, et puis c'est aussi, pour les acteurs, c'est toute la difficulté. C'est comme dit Bond, quoi. Pour moi, c'est très, comment dire, c'est très juste, quoi. C'est essayer à chaque fois d'approcher l'objet invisible de la pièce, réinventer la chose comme si elle n'avait jamais été faite, pour essayer d'aller vers cet objet invisible de la représentation.
Oui, c'est le moment où le théâtre devient un art collectif. C'est-à-dire, c'est dans cette exposition-là, parce que des gens s'exposent sur scène. Et que d'autres gens regardent cette exposition, qu'il y a cet échange, que ça devient un art pas anonyme, un art vivant, un échange.
Scène.
La cour de récréation.
Oui, un lieu à part, enfin le plateau, j'entends, par scène, j'entends plateau, cet endroit un peu étrange qui devient par le regard du public, parce qu'on décide que c'est cet endroit-là qui devient une espèce de lieu un peu étrange, un peu inquiétant, un peu effrayant aussi, où d'un seul coup, effectivement, des humains viennent et se retrouvent en situation d'être épiés par d'autres. Et que voilà, ce plateau, c'est une espèce de lieu un peu sacré quand même. Il y a, je pense que c'est à voir avec un lieu un peu séparé de tout le reste, où on décide que des gens vont parler à d'autres.
Personnages.
Il n'y en a pas.
N'existe pas, oui.
Ça n'existe pas.
Le personnage n'existe pas, c'est ça que vous dites ?
Oui.
Non, c'est des bouts de... je sais pas, c'est des bouts d'impression qui, à un moment donné, se mettent à devenir quelque chose. Mais oui. En fait, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas...
Mais
ça n'a pas de corps, pas d'image particulière, ça.
Mais le personnage, c'est personne. C'est ça à voir avec personne. C'est le masque.
C'est le nez, oui.
C'est Ulysse. Ulysse qui dit au cyclope, qui répond au cyclope, qui lui demande comment il s'appelle. Ben, personne. Voilà, c'est le personnage, c'est ça. C'est un. C'est la limite hypothétique de la série des signes que l'acteur construit.
Politique.
À voter, citoyen.
La justice. La question de la justice.
Et de la démocratie.
Populaire.
Du poisson sur le vieux port. le marché à Noailles.
La bouillabaisse, c'était un plat populaire. Maintenant qu'on paye très cher dans les restaurants.
Oui, non, ça a à voir avec le théâtre populaire. Un théâtre pour tout le monde. Un théâtre populaire. C'est...
Élitiste pour tous.
Subvention.
Aïe.
Subvention, moi ça me fait penser à la soupe populaire justement.
Oui, mais en même temps c'est très important, c'est évident. Subvention, oui, subvention d'État, subvention publique, subvention régionale, subvention, accompagner la création, quoi. Ouvrir les têtes. Après c'est sûr que ça saupoudre beaucoup pour les compagnies régionales.
Au départ la subvention c'était fait pour... que les places soient moins chères. Les gens, justement, pour que ça devienne populaire, le théâtre. Maintenant, c'est donné aux compagnies, aux gens qui travaillent. Mais voilà.
Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, Gilles. C'est intéressant parce que je pense que, en fait, encore aujourd'hui, c'est la même idée.
Oui,
c'est-à-dire
mais sauf que...
Dans l'absolu, le théâtre ne devrait pas avoir besoin de subventions. C'est-à-dire, voilà, des artistes se réunissent, ils montent un spectacle, et puis les gens viennent, ils payent leur place, et puis on pourrait rêver que cet argent suffise à payer tout le monde et à faire vivre la compagnie, le spectacle, etc. Mais de fait, c'est pas possible. Ça a existé dans un très lointain passé, mais ça n'est plus du tout le cas. Donc oui, c'est absolument indispensable qu'il y ait des subventions. Mais tu sais qu'il y a à l'opéra... Il y a des festivals où le prix des places suffit quasiment à financer les spectacles. Mais évidemment, alors là, le coût des places, c'est pas pour nous, quoi.
Si dans la compagnie des hommes était une chanson.
Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Tout
fumée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles ma petite entreprise, que ne pas la crise s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, là j'y coule à mes oreilles ma petite entreprise, que n'est pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait.
On passe une heure avec la compagnie Citéa sur les 3-8.
Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Si dans la compagnie des hommes était un animal.
Moi je dirais un animal préhistorique. Un dinosaure.
Moi pareil. Carnivore, hein, comme
oui, 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 un carnassier.
Un charognard, moi je dirais même une hyène. Ouais, c'est très vieux la hyène.
Une couleur.
Rouge.
Ah ben moi je dirais le noir. Enfin, en considérant que le noir est une couleur.
Oui. Un noir bien sanguinolent.
Une série télévisée.
Dynastie.
Breaking Bad.
Le riche et le pauvre.
Si dans la compagnie des hommes était un pays.
L'OTAN.
Bah, on pourrait dire l'Angleterre, hein, parce que ça se passe là-bas, hein.
Mais c'est pas un pays, enfin je veux dire, ça pourrait être une multinationale, tu vois, ça serait pas un pays. Il y a des multinationales qui dirigent des pays, donc...
Oui, les États-Unis, moi quand même je dirais, les États-Unis et l'Angleterre, ouais.
Un objet.
Une corde.
Une bouteille vide, vidée.
C'est sinistre.
Une boisson.
Whisky.
Non, oui, ça veut dire whisky.
Une odeur.
La charogne.
Ouais.
Si dans la compagnie des hommes était un plat.
Steak tartare.
Un carpaccio de poulain.
Pour moi, ça serait un plat que tu manges, et plus tu manges, plus il tourne. T'es malade.
Une arme.
L'arme de la pièce, c'est le fusil. C'est
la nouvelle génération d'armes d'épaule. Carabine de précision combinée au fusil d'assaut.
C'est l'arme à distance, en tout cas. C'est l'arme qui ne salit pas les mains.
Ouais.
C'est sûrement pas, en tout cas, un couteau ou... Ouais. Ou une baïonnette, ou quelque chose qui...
C'est à travers un viseur, donc un œil de verre, comme j'ai dit. Et puis il y a aussi l'arme qui ne salit pas les mains, voilà, qui... C'est l'arme nucléaire.
ou les missiles, tu sais, ils balancent, avant d'envahir l'Irak, ils ont balancé des missiles. Ils te disaient à 8 mètres près, ils sont capables de toucher une cible sans toucher le reste autour. Ça pourrait être ça.
La destruction chirurgicale.
Si dans la compagnie des hommes était un endroit.
L'enfer.
Ah oui, je dirais juste le seuil. Le seuil de l'enfer.
Le seuil, oui.
Un site internet.
Un site porno.
Ça serait ouais, sans doute un site pornographique sur lequel tu peux quand même jouer à la bourse. Tu peux quand même garder un œil sur tes actions.
Une religion.
L'argent.
Oui, mais...
Capitalisme.
Ah oui, le capitalisme. Le libéralisme.
L'ultra, oui.
Un événement.
Enfin, je pensais aux compagnies pétrolières en 1928. Elles se sont réunies, je crois, en Écosse, dans un château. Elles sont sept, elles se sont partagées le monde. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire, les règles n'ont pas changé.
Si la compagnie des hommes était un sentiment...
Révolte.
Alors, ça dépend, oui. Qu'est-ce que... ce qu'on aimerait que ça provoque et puis ce que ça d'où ça part, moi je dirais que c'est la peur. C'est une, enfin je crois que la pièce suinte de peur,
la terreur de ne pas être reconnu, de ne pas se reconnaître.
Moi je dirais un sentiment d'humanité, parce que je pense que dans cette humanité ça contient en même temps l'inhumain. Ça serait deux sentiments comme ça qui se côtoieraient tout le temps sans se lâcher.
Une devise.
On n'apprend pas aux chiens à marcher sur les pattes arrière en leur coupant les pattes avant.
C'est ainsi que se termine cette émission spéciale Une Heure avec la compagnie Citéa, imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille-la-Criée, à l'occasion de la création par la compagnie Citéa du spectacle Dans la compagnie des hommes, du 3 au 9 novembre sur le plateau de la petite salle de la Criée. Merci à
Céline Malik.
Donc Céline Malik, metteur en scène de la compagnie Citéa, directeur artistique.
Gilles Lemoer,
comédien de la compagnie aussi et metteur en scène.
Arnaud Aprédéris,
comédien dans la compagnie des hommes.
Dominique Richard,
donc je suis comédien sur ce spectacle et par ailleurs je suis aussi metteur en scène et j'écris.
Et merci à Eva Journeau, chargée de communication de la compagnie Citéa, pour sa voix. Merci d'avoir été à l'écoute. Info, contact, réservation sur théâtre-lacrier-toutattaché.com ou au 04 91 54 70 54. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réécouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com.